grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Éloge de l'œil, organe fabuleux, petit hublot convexe enchâssé dans un œuf dur. Grand comme un galet, il perçoit la lumière, capture l'image, l'analyse dans le cortex visuel et restitue à notre conscience un grain de sable, la voie lactée et tes yeux noirs, Ouna, ma fille. Le monde visible révélé par un organe d'un centimètre de rayon. Éloge de l'œil par une journaliste au regard acéré, vif, impertinent, empathique. Elisabeth Quin, atteinte d'un double glaucome depuis 2008, avec cette angoisse lancinante, parfois difficile à dompter, la peur de perdre la vue, racontée dans son beau livre « La nuit se lève ». Coup de projecteur ce matin sur le glaucome, sous-diagnostiqué dans notre pays. En France, c'est la deuxième cause de cécité après la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Après 70 ans, environ une personne sur 10 est affectée d'un glaucome. Comment se manifeste cette pathologie qui détruit le nerf optique? Quel est son diagnostic? Les principaux symptômes? Les traitements possible? Comment vivre avec ce serpent silencieux qui avance à bas bruit et entraîne la cécité s'il n'est pas maîtrisé à temps? Nous évoquerons également l'angoisse de devenir aveugle. Nous attendons toutes vos questions sur le glaucome et plus globalement sur la peur de perdre la vue au standard de France Inter 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Avec nous donc ce matin Elisabeth Quin, The Queen, comme le disait tout à l'heure Sonia De Villers, et l'ophtalmologiste Stéphane Delage. Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychiatre et c'est vous qui assurez ce matin les choses vues à la place de notre ami Christophe André.
Oui.
Au programme.
Mais écoutez, je suis très contente d'être là, on a des choses à se dire importantes.
Sur la peur notamment.
Oui, sur la peur.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Elisabeth Quin.
Bonjour Ali.
Vous présentez l'excellent magazine 28 minutes tous les soirs de la semaine sur Arte et vous publiez un livre qui sonne juste, sans pathos, La nuit se lève chez Grasset. Vous racontez le double glaucome qui vous affecte depuis 2008 et qui s'est aggravé il y a 2 ans. Le glaucome, je le rappelle, c'est une forte altération du nerf optique due à une pression trop élevée à l'intérieur de l'œil, avec une conséquence grave, le rétrécissement du champ visuel de la périphérie vers le centre. Qu'est-ce que vous voyez là, Elisabeth Quin?
Je vous vois très très bien là. Non, je vous vois très bien. Je suis un petit peu aveuglée, non pas complètement aveuglée, mais les lumières sont un peu fortes. Si c'était la nuit, j'aurais beaucoup plus de mal à vous voir. Ah, merci.
On est en train de baisser la lumière dans le studio.
Non, mais c'est merveilleux. C'est magique. Non, je vois bien, mais mon champ visuel est effectivement rongé vers l'extérieur.
Alors, vous étiez déjà très myope.
Très.
La vue va de soi jusqu'au jour où quelque chose se détraque.
Oui. Mais oui, parce qu'on n'y pense jamais. Enfin, on n'y pense jamais pour la simple raison qu'on est. Vous savez bien que nous autres humains vivons quand même dans le déni, assez souvent. Et puis, la vue va de soi, c'est le sens magique, merveilleux, totalitaire. C'est le premier sens, c'est le sens roi, la vue. On a tendance à oublier que nous sommes constitués, enfin, notre appréhension du réel se fonde sur 5 sens, sans compter le reste, évidemment, un rapport à l'invisible. On n'y pense pas jusqu'au jour où quelqu'un vous dit avec une voix plus ou moins teinté d'empathie, ce qui ne fut pas mon cas. Je suis tombée sur quelqu'un qui était assez froid jusqu'au jour où quelqu'un vous dit « Vous avez un problème, vous avez une maladie qui est grave. » Voilà. Et là, tout d'un coup, vous reconsidérez ce qui vous arrive, votre corps, votre organisme et votre appréhension du réel, votre perception du monde.
Comment avez-vous reçu le choc du diagnostic et la violence de l'annonce?
Très mal.
Parce que vous avez rencontré, vous le racontez dans le livre, un bon paquet d'ophtalmos gougnafiés, pour ne pas dire plus, souvent inhumains, imbus d'eux-mêmes, parfois pervers.
Oui, mais pas que.
Pas que.
Il y a aussi des gens absolument formidables qui soignent bien et avec cœur et avec technicité et avec compétence et humanité. Mais oui, je suis tombée au cours de mes 10 ans de parcours médical sur quelques spécimens assez gratinés, dirons-nous.
Comment vous avez encaissé cette violence?
La violence de l'annonce. C'est l'annonce primordiale, c'est la première fois. Je l'ai très mal vécu, enfin, j'ai failli m'évanouir. Je ne sais plus si j'ai failli m'évanouir, mais si vous voulez, on sait, sans avoir beaucoup d'informations sur la maladie, car on n'est pas assez informé, c'est un problème, ce manque d'informations. Je savais tout de même, j'avais 45 ans, je savais que que le glaucome était une maladie qui pouvait conduire à la cécité. Quand on me l'a annoncé, quelque chose s'est fracturé à l'intérieur de moi. J'ai évidemment repris le dessus assez vite. Ceci dit, je dois dire, si je suis honnête jusqu'au bout, pendant un ou deux, voire même deux ans et demi, j'ai pas tout à fait suivi le ce que je devais faire. J'ai pas été dans une observance parfaite
du
par
traitement.
Rapport au collier. Oui.
On y reviendra tout à l'heure. Bonjour docteur Stéphane Delage.
Bonjour.
En duplex de Lyon, vous êtes ophtalmologiste libéral, secrétaire général adjoint du syndicat national des ophtalmologistes de France. Sur la violence du diagnostic dont parlait Elisabeth Quin, Stéphane Delage.
Oui, effectivement. Les médecins doivent faire preuve d'empathie et c'est forcément difficile parce qu'on est actuellement pas assez nombreux, donc on a des durées de consultation plus courtes et c'est forcément quelque chose qui n'est pas enseigné dans les écoles de médecine et qui est plus ou moins inné. Il faut effectivement faire preuve d'empathie, expliquer le diagnostic et puis le réexpliquer à plusieurs reprises. C'est effectivement primordial.
Docteur Aurélien Schneider, sur la violence du diagnostic, sur l'impact psychologique.
Je suis déjà tout à fait d'accord avec mon confrère qui dit que c'est pas enseigné dans les études de médecine. Et c'est un véritable problème. De même que dans les études de médecine, on enseigne de la technicité. Eh bien, on devrait enseigner la chaleur, on devrait enseigner... comme si c'était pour soi, en permanence. On devrait aussi enseigner des choses tactiles. Les médecins sont en fait des gens qui examinent leurs patients, donc ils les touchent, mais sur un mode froid, et heureusement d'ailleurs. Mais je pense que ce qui est fondamental, à un moment, c'est de prendre l'épaule de son patient ou de prendre son bras et de dire, voilà, il y a quelque chose, il faut que je vous dise. Mais on va se revoir peut-être pour ça, parce qu'il a raison, mon collègue, on n'est pas nombreux et on n'a pas beaucoup de temps.
Il a parfaitement raison sur il n'y a pas assez de médecins, il y a trop de monde, les rendez-vous sont courts, les rendez-vous sont hâtifs, mais effectivement sur la dimension tactile, ça me fait penser à quelque chose qui avait été relevé par un vieux médecin qui s'appelait Raymond Garcin, j'en parle dans mon livre, qui un jour était confronté à un médecin qui râlait parce qu'il n'arrivait pas à rassurer son patient, et le vieux Raymond Garcin a dit à son collègue, à son co-religionnaire, mais lui avez-vous pris la main? Et ce lui avez-vous pris la main, tout est dit, on ne demande pas au médecin de faire un accompagnement affectif comme si c'était un membre de notre famille, mais juste un geste infime qui signifie je suis capable, même si j'ai pas beaucoup de temps, de m'identifier suffisamment pour, voilà, je vous prends la main, on se reverra dans un mois, deux mois, trois mois, mais voilà, vous voyez, ce geste-là, ce signe, c'est un signe d'humanité, ça suffit, on n'en demande pas plus.
Ouais,
et oui, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Stéphane Delage, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un glaucome? Deux formes de glaucome, le plus fréquent c'est le glaucome à angle ouvert, c'est ça? Celui qui évolue silencieusement, lentement, avec un impact irréversible sur le nerf optique?
Oui, c'est celui dont il est question dans le livre d'Elisabeth Quin. Mm-hmm. Donc c'est la forme la plus fréquente, c'est le glaucome chronique, effectivement à angle ouvert, qui est détruit progressivement sur des années de façon silencieuse et sournoise le champ visuel d'un œil, voire des deux yeux si les deux yeux sont atteints, ce qui est quand même fréquent, et qui peut mener effectivement à la cécité totale, contrairement à d'autres maladies comme la DMLA qui ne rendent pas aveugle. En revanche, le glaucome peut effectivement rendre aveugle. Donc il est lié à une augmentation de la pression du liquide qui se trouve à l'intérieur de l'œil, dans sa partie avant, et cette pression appuie de façon mécanique sur les fibres du nerf optique. Et c'est comme cela que le champ visuel se dégrade. Après, il peut y avoir d'autres causes circulatoires ou cellulaires, mais la cause principale est quand même cette augmentation de pression oculaire.
Elisabeth Quin, vous êtes devenue familière du trabéculum,
mais oui,
c'est ça?
Le conduit par lequel, vous me corrigez, hein, docteur, si je dis des bêtises, mais c'est à travers ce conduit au nom barbare et latin, trabéculum, que ce doit s'éliminer l'humeur aqueuse. Et lorsqu'elle ne peut pas s'éliminer, elle engorge l'œil, n'est-ce pas? Et elle fait pression sur le nerf optique, c'est ça?
Oui, en fait, on parle d'une grille d'égout, ce qui n'est pas
très joli. Voilà.
C'est pas très joli, mais bon.
C'est ça. Mais écoutez, moi, j'ai rencontré une ophtalmologue qui me disait, ça ne percole pas. Voilà. Vous voyez, elle parlait comme un concessionnaire de machines de café. Elle me disait, comprenez, ça ne percole plus. Mais au moins, c'est clair. On comprend quand on vous parle de grille d'égout. Ça vous donne un petit coup à l'ego. Vous vous dites, bon, c'est sympa, j'ai deux grilles d'égout dans les yeux. En même temps, c'est pas mal de,
hein? Stéphane Delage.
Oui, en fait, cette humeur aqueuse, puisque ce liquide s'appelle l'humeur aqueuse, est filtrée, s'évacue dans l'œil parce qu'elle est renouvelée en permanence. Donc, il y a un endroit où elle est fabriquée, il y a un endroit où elle est évacuée. Et dans le glaucome chronique, c'est l'évacuation qui se fait mal. Il y a une dégénérescence du trabéculum. Et là, on arrive à quelque chose de difficile parce que cette dégénérescence du trabéculum, on en connaît mal la cause. Donc, l'hérédité joue certainement un rôle indéniable. Également, l'origine ethnique, puisque les populations à peau noire sont plus atteintes. Elles ont également des formes plus graves. Et puis l'âge, au-delà de 40 ans. Il y a également des facteurs vasculaires. On recherche si les personnes n'ont pas des baisses de tension artérielle nocturne. Donc on peut être amené à enregistrer leur tension artérielle la nuit, par exemple.
Elisabeth Quint.
Ah oui, c'est mon cas. Voilà, on a découvert ça parce que je suis suivie au 15-20. Il y a des équipes formidables. Hôpital parisien, spécialiste, hôpital ophtalmologique. Et on a découvert, car le médecin qui me suit était très embêté, se disait mais pourquoi est-ce que ça continue à évoluer alors que les colis, on met le maximum dans l'œil. Donc on m'a pris la tension pendant 24 heures, on a découvert qu'il y avait effectivement des baisses de tension la nuit, ce qui explique, ainsi que les gens qui ont de l'apnée du sommeil, je crois que je parle sous votre surveillance docteur, les gens qui sont sujets à l'apnée du sommeil doivent quand même aller voir un ophtalmo parce que ils peuvent effectivement, c'est tout à fait un facteur qui déclenche des glaucomes.
Oui. Ils doivent aller voir un ophtalmo, oui. Et puis pas que. En fait, l'apnée du sommeil, au début, on pensait que c'était que pour des gens en surpoids. Et en fait, on s'aperçoit que ça peut atteindre des gens, je dirais, qui sont à de poids normal. Et ça peut donner des glaucomes chroniques, ça peut être aussi une cause d'AVC et d'autres choses. Donc c'est une maladie qui est aussi sous-diagnostiquée. Et il faut y penser. Et on peut tout à fait facilement au domicile, avec l'enregistrement sur une nuit, avec différents capteurs... regardez ça, mais c'est important, oui.
Petite question technique, docteur Delage. Contrairement au nerf optique des poissons ou des reptiles, notre nerf optique, celui des humains, ne peut pas se régénérer ?
Non. Il ne peut pas se régénérer. Il y a des pertes de fibres optiques physiologiques avec l'âge, ce qui s'ajoute aux pertes pathologiques. Mais effectivement, on a notre stock de fibres pour la vie, oui.
Marie-Laure Zonshine de Femme Actuelle, bonjour,
oui,
première question.
Oui, bonjour, allez. Une question, docteur, et vous aussi, Elisabeth Quint, peut-être l'avez-vous fait. Est-ce qu'il y a des signes visuels qui vous ont alerté ? Est-ce que soi-même, on parlait tout à l'heure de la DMLA, il y a eu des campagnes d'information, si vous ne voyez plus telle chose, si vous avez l'apparition d'une ombre, méfiez-vous. Est-ce que dans le cas du glaucome, il y a aussi des signes qui peuvent alerter le patient potentiel lui-même ?
Alors, si on parle toujours du glaucome chronique, parce qu'il y a une forme aiguë, beaucoup plus rare, qui est violente, avec une augmentation de tension oculaire brutale, un œil rouge, une baisse de vision, des maux de tête, mal à l'œil, bon, ça, on passe pas à côté, c'est une urgence médicale. Donc, on laisse ce glaucome aigu de côté, on revient au glaucome chronique dont il est question dans cette émission et dans le livre. Le glaucome chronique, le gros problème, c'est qu'il n'y a effectivement aucun symptôme, sauf pour les formes avancées où les personnes commencent à voir qu'il se passe quelque chose dans leur champ de vision.
Elisabeth Quint.
Oui, mais alors moi, vous évoquez forme avancée. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, docteur. Il y a 10 ans, j'avais le sentiment, et j'arrivais pas très bien à identifier ce qui se passait autour de mon champ visuel. D'abord, je suis pas sûr tout à fait que je savais parfaitement ce que c'était qu'un champ visuel, puisque tout allait bien, même si j'étais très myope. Et je suis allée consulter ayant un sentiment de gêne. C'est au cours de cette consultation qu'on a détecté ce glaucome. Et comme je le raconte dans le livre, en voyant une photo de cheval avec des œillères, par la suite, j'ai rétrospectivement réalisé que c'était ça ma sensation. Vous voyez, comme si quelque chose me gênait dans ma vision à droite et à gauche, mon champ visuel externe.
Et vous écrivez que vous voyez un intrus, un parasite qui s'est glissé dans votre champ visuel.
Oui, parce que là, le glaucome, comme le champ visuel tout autour de l'œil est un peu rongé, c'est ce qu'on voit quand on fait faire des examens et qu'on a la matérialisation sur le papier. C'est vrai que si je regarde quelque chose comme un ciel en bas de mon champ visuel, il y a comme l'ombre de mon nez, enfin il y a une espèce de présence, voilà, qui n'augure pas des choses merveilleuses, et je préfère ne plus y penser d'ailleurs.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions, témoigner sur le glaucome, mais également nous raconter votre peur de perdre la vue au 01 45 24 7000. Un mot de soutien aux confrères de France Bleu Isère, dont les locaux ont été détruits par un incendie criminel. À la préparation de cette émission, Antoine Vandeville, Alexia Rivière et Claire Destacan, avec l'aide de Nicolas Bove. À la réalisation, Stéphanie Texier.
Une coquille de noix bleues.
Ça vous fait du bien, ça, Marie-Laure Zunshine, Elisabeth Quin. Souvenir
vous étiez dans vos couches, Ali.
J'étais déjà un grand garçon, vous savez.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h25 et ce matin, nous recevons la journaliste Elisabeth Quin, qui souffre d'un glaucome et qui publie La nuit se lève, et l'ophtalmologiste Stéphane Delage. Toutes vos questions au 01 45 24 7000.
Le glaucome, qui est une cause courante de cécité, est une maladie qui affecte l'écoulement de l'humeur aqueuse, provoquant une élévation de la pression intraoculaire. Il existe de nombreux types de glaucome et de nombreuses causes. Souvent, un glaucome survient lorsque le système trabéculaire, semblable à une éponge qui filtre le liquide oculaire, devient compact et empêche le liquide de s'évacuer dans le canal, ou lorsque l'iris de l'œil obture le canal. Dans les deux cas, l'accumulation de liquide dans l'œil crée une pression qui exerce une poussée sur l'arrière de l'œil et endommage le nerf optique. Ce nerf est responsable de la transmission des images au cerveau. Au fil du temps, l'augmentation de la pression peut se traduire par des taches aveugles, voire même par une cécité totale. Un traitement approprié permet d'interrompre ou de ralentir la progression de la maladie, mais ne peut pas restaurer la vision perdue.
Elisabeth Quin, dans La nuit se lève, vous racontez votre vie avec votre glaucome, avec les emmerdes et les angoisses qui vont avec. Pourquoi écrire sur le glaucome? C'est pour lutter contre le déni, la honte, la peur?
C'est pour tout ça, c'est pour témoigner, c'est pour forger une sorte de compagnonnage entre les gens qui ont cette maladie, qui peuvent être intéressés par ce témoignage, et puis tout ce que j'ai lu au cours des quelques années qui m'ont bien angoissé récemment, deux, trois dernières années, j'ai lu des tas de récits de gens morts pour la plupart, qui ont raconté comment ils sont entrés dans la nuit ou comment ils ont affronté la nuit, avec plus ou moins d'ardeur, de courage, de peur... ou de foi dans une sorte de lumière qui viendrait d'ailleurs. Voilà, donc c'est, j'ai l'impression de m'inscrire dans une sorte de chaîne, vous voyez, de solidarité, de compagnonnage. Voilà, c'est un peu ça ce livre.
Alors vous comparez votre œil affecté d'un glaucome à un œil poubelle, et vous faites une analogie entre le globe terrestre et le globe oculaire.
Le globe oculaire,
pourquoi?
Mais pourquoi? Je sais pas, ça m'est venu un jour en me disant que tous ces débris accumulés, cette pression exercée sur le globe qui le rend qui le rendait incapable de voir. Et je me suis dit tout d'un coup, je ne pouvais plus jouir de la beauté du monde. Je ne pourrais peut-être plus jouir de la beauté du monde. En d'autres termes, il y a des choses à préserver et il faut tout faire pour les préserver, que ce soit votre vision, votre vue, votre santé, votre capacité d'empathie, de partager la beauté avec les autres ou l'amour, et puis préserver le monde dans lequel nous sommes, la planète, pardon, sur laquelle nous sommes, à laquelle nous appartenons, ce que nous oublions trop souvent. Nous en faisons partie intégralement.
Marie-Laure Zonshine.
Oui, vous venez un peu de le dire, on l'a vu avec Laetitia Milot qui est atteinte d'endométriose et qui en a fait un combat. Oui. C'est une personnalité connue du grand public. Elle a porté ce combat, elle a aussi porté la parole de nombreuses femmes. Elles sont extrêmement nombreuses qui en souffrent.
Okay, oui.
Voilà. Et est-ce que vous-même, vous vous êtes sentie investie aussi de se dire, j'ai quand même cette notoriété, je peux porter ce message, je vais le faire pour les autres. Est-ce que c'est aussi une dimension importante pour vous ?
Ça n'était pas aussi volontariste peut-être et aussi dessiné dans le sens d'un dessin, mais il se trouve que au fur et à mesure que je vais en province, notamment pour signer ce livre et pour en parler, je suis évidemment abordée par des gens qui ont cette maladie, qui sont soulagés de voir qu'on en parle, qui sont soulagés d'entendre qu'effectivement j'aimerais bien et nous aimerions tous bien qu'il y ait des campagnes d'information et qui m'ont demandé par exemple de devenir la marraine de l'association France Glaucome. J'ai dit oui, évidemment, si la notoriété qui est la mienne dans le périmètre qui est le mien peut servir à en parler et à médiatiser la souffrance, l'angoisse et le besoin d'information et de prévention et de diagnostic, alors je suis partante.
Docteur Stéphane Delage en duplex de Lyon, quel est le traitement de référence contre le glaucome? On évoquera tout à l'heure la chirurgie et le laser.
Alors, si vous permettez, je vais revenir rapidement sur le diagnostic. Elisabeth Quint a parlé de sa myopie. Effectivement, dans les facteurs de risque, il y a aussi la myopie forte, bien entendu. Et donc, j'en profite pour donner un message de santé publique rapidement, si vous le permettez.
Bien sûr.
En fait, à partir de 40 ans, voire même plus jeune en cas d'antécédents familiaux, il faut absolument passer par la case ophtalmo et pas se contenter d'une mesure de pression oculaire, mais faire un examen complet avec la mesure de l'épaisseur de la cornée, parce que la mesure de la tension oculaire seule n'a pas de sens, mesurer l'épaisseur de la cornée, l'ophtalmo regarde le fond de l'œil, fait éventuellement une photo du nerf optique, et s'il a un doute, il engage une série d'examens, champ visuel, OCT, examen de l'angle.
Et d'ailleurs, Elisabeth Quint, vous débutez votre livre avec un examen médical, et personnellement, j'étais au bord du malaise vagal,
oui, oui, mais
quand
vous
le
pouvez...
médecin vous pose cette bille transparente sur le globe oculaire.
Mais le docteur Delage doit savoir, la gonioscopie, vous voyez de quoi il s'agit. Oui, c'est un examen totalement manuel, absolument sidérant, que l'on m'a fait il y a quelques années, où vous êtes face au médecin, vous êtes dans une intimité suffocante, littéralement, et ça s'appelle une machine à fente en plus, qui est utilisée, et le médecin vous anesthésie le globe oculaire et pose une bille sur votre œil, et fait rouler cette bille. Et effectivement, j'ai un peu extrapolé, mais ça suscite chez le patient soit des malaises vagaux, soit des visions fantasmatiques, enfin je veux dire évidemment. Ça joue sur tous les ressorts les plus archaïques liés à l'œil, à la perte de la vision, à l'œil tranché. Enfin, j'en passe et des meilleurs ou des plus horribles, mais c'est absolument fascinant comme examen. Mais on n'est pas obligé d'en passer par là pour se faire détecter un glaucome. Le docteur a raison.
Non. Alors, docteur Delage, le traitement de référence, on parlera tout à l'heure de la chirurgie et du laser. Ce sont les collyres, c'est ça ?
Alors, ce sont les collyres, oui. Alors, sans entrer dans des détails pharmacologiques, il y a deux types de collyres. Il y en a qui diminuent la production de l'humeur aqueuse, donc de ce fameux liquide, et d'autres qui facilitent son évacuation. Donc il y a des classes de collyres, de bêta-bloquants, de prostaglandines, d'autres non plus compliqués, inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, etc. Enfin, le traitement de base, c'est les collyres, donc on commence souvent par une monothérapie. On essaye le plus possible de prendre des collyres sans conservateur, parce que c'est des traitements qui seront pris pendant des années. Donc là se pose le problème de l'observance, parce que c'est pas parce qu'on a fait l'ordonnance que la personne va prendre ses gouttes. Donc les collyres, on commence par un collyre, puis des associations, deux. Le maximum en général c'est trois, parce qu'au-delà c'est mal toléré, chacun ayant ses effets indésirables. Donc, en général, au bout de trois, on passe à l'étape suivante.
Alors, Elisabeth Quint, à propos des effets indésirables, sont des effets à la fois bénins et un peu comiques, enfin comiques au début.
Ridicule.
C'est que ces collyres excitent la pousse des poils.
Alors, certains, en ce qui me concerne, je pense que je ne suis pas la seule, peuvent provoquer une pilosité débordante et galopante. Voilà, comme me l'a dit un jour aimablement quelqu'un, pour rire et pour désamorcer, dédramatiser, tu deviendras une femme à barbe, c'est pas très grave, tu feras de la radio, c'est pas très grave. Non, non, mais
j'ai une barbe d'ailleurs.
Oui, je vois. Vous prenez des colliers. C'est l'amicale, l'amicale des glaucomateux barbus.
Mais vous racontez tous ces petits moments de honte sociale.
Je raconte ces petits moments de honte sociale
et intime.
Ben oui, parce que si vous voulez, c'est comme une mauvaise blague. C'est-à-dire que à mesure que vous voyez moins, vous devez prendre des glaces, enfin des miroirs grossissants pour enlever des poils que vous ne voyez plus et qui poussent de mieux en mieux. Donc la situation est absolument dégoûtante et en même temps aide à se forger une forme de d'aquabonisme ou d'autodérision par rapport à tout ça.
Et ce glaucome, c'est l'occasion de vous poser des questions sur le rapport des non-voyants, des malvoyants à leur corps.
Bien sûr. Oui, j'ai extrapolé sans être indécente et me mettre à la place d'un aveugle, puisque je ne suis pas aveugle, mais je me suis juste posé la question, confrontée à cette pince à épiler devant mon miroir grossissant, je me suis dit, comment font les femmes qui sont aveugles pour prendre soin d'elles? Tout simplement, j'ai trouvé la question vertigineuse, je n'ai pas de réponse. Où vont-elles puiser leur confiance en soi quand elles n'ont plus ce miroir, ce reflet qui leur permet d'être dans un dialogue intime qui n'a besoin de personne? Donc elles ont besoin d'un médiateur. Sans doute. Médiateur, ça serait un regard aimant, un troisième regard. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment elles font. J'admire.
Et vous vous demandez si la libération ultime, eh ben, c'est peut-être de vivre dans le hors-champ total de soi.
C'est ça. C'est-à-dire une forme de liberté intérieure, la liberté de l'âme qui irait avec la cécité. Je ne sais pas.
Docteur Aurélia Schneider.
Mais je crois que tout à l'heure qu'on parlait d'un point important, c'est la compliance.
Qu'est-ce que
la,
c'est
la compliance, c'est le fait de prendre le médicament. Et il m'a semblé que vous disiez tout à l'heure aussi que vous aviez eu du mal au début
pendant un an,
prendre.
Oui,
la première année. Qu'en fait, c'est pas seulement à cause des effets secondaires qu'on ne connaît pas forcément au début. Hein. Bien sûr, on n'est pas averti de tout ça. Et heureusement, parce que je crois que si on savait, on aurait encore plus de mal. Mais c'est d'accepter en fait que cette chose-là nous est arrivée. Mmh. Et le paradoxe, c'est que plus vite on l'accepte, plus vite on se soigne et mieux ça vaut. Et en même temps, c'est difficile. C'est très difficile. Et puis, il ne faut pas penser que des petits colliers qu'on se met dans les yeux n'auront que des effets oculaires. C'est aussi un des messages que vous portez. C'est-à-dire qu'on croit que quand on se met juste quelque chose dans l'œil, ça va juste aller dans l'œil. En fait, non. On est relié par nos vaisseaux, par notre circulation. Et ben, effectivement, ça peut faire pousser les poils, comme vous dites.
Et ce n'est pas très grave.
Stéphane Delage, question par courriel de Myriam de Paris. Est-ce que le glaucome est héréditaire?
Pardon, il y a des facteurs de risque héréditaires. 30% des cas, à peu près, des glaucomes chroniques ont une forme héréditaire.
Elisabeth Quint, votre père avait un glaucome.
Oui, mon père avait un glaucome. Ça a été compliqué parce que mon père avait la maladie d'Alzheimer et ma mère n'était pas très nette non plus sur le plan cognitif. Donc j'ai appris très tard que mon père, qui était aveugle d'un œil pendant des années, l'était à cause d'un glaucome. Ce qui malheureusement a retardé évidemment ma connaissance de la situation. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais pris des mesures beaucoup plus tôt.
Et vraisemblablement, bah, vous ne transmettrez pas votre glaucome à votre fille.
Oui,
Una.
Puisque je l'ai adopté.
Exactement.
C'est la bonne nouvelle de l'affaire.
À propos de votre fille, Una, vous posez une très belle question. Auriez-vous pu l'adopter si vos regards ne s'étaient pas croisés dans un orphelinat rural cambodgien en mai 2003? Histoire de regard entre vous et votre fille adoptive.
Oui, le regard, c'est comme une main. Finalement, on agrippe un regard, on attrape une main et là, il se noue quelque chose dans le cadre d'une adoption, comme ça a été le cas il y a plus de 15 ans. Ça s'est véritablement fondé, noué, scellé sur deux regards qui se sont accrochés dans cet orphelinat. Effectivement, c'est une des questions annexes.
Bonjour Gérald.
Bonjour Ali.
Bienvenue dans l'émission.
Bonjour, oui, merci.
Bonjour,
Elisabeth, notre marraine.
Vous avez 55 ans, Gérald, et vous souffrez d'un glaucome bilatéral. Expliquez-nous simplement ce que c'est.
Alors, c'est tout simplement un double glaucome.
Tout simplement.
Elisabeth. Je suis déficient visuel, et donc mes champs visuels des deux yeux se sont terriblement diminués, puisque mon œil droit, qui est l'œil le plus fort actuellement, a un champ de l'ordre d'un timbre poste, voire même un demi-timbre poste. Donc, je suis obligé aujourd'hui, lorsque je veux observer quelque chose, de scanner les objets, scanner mon univers pour pouvoir appréhender les éléments de mon univers.
Comment a été traité votre glaucome, Gérald? Par des colliers d'abord?
Alors, moi, je suis donc, comme je vous disais, je suis né avec une cécité totale due à la cataracte, qui a été opéré très tôt et qui vraisemblablement est une conséquence du glaucome. En fait, le glaucome serait un glaucome secondaire dû à l'absence de mes cristallins. Mmh. À l'âge de 16 ans, on a diagnostiqué un glaucome et très vite, on a commencé par une monothérapie avec un bêta-bloquant. C'est un collyre qui consiste un petit peu à bloquer la sécrétion de l'humeur aqueuse. Et j'ai passé toutes les étapes, à savoir les quatre molécules qu'on peut connaître lorsqu'on prend les collyres, puis le laser. Soit le laser pour détruire une partie du corps ciliaire, soit le laser pour dilater ce fameux trabéculum, et puis ensuite la chirurgie, ce qu'on appelle la trabéculectomie, ou la chirurgie micro-invasive avec les fameux stents, qui sont des produits récemment sortis sur le marché, dont la réussite est un petit peu discutable, puisque actuellement 30% de ces patients opérés connaissent un échec.
Alors Gérald, vous nous avez dit hors antenne que le glaucome était le parent pauvre de l'ophtalmologie. Et vous nous invitez d'ailleurs à nous faire dépister. Hein.
Alors, oui, tout à fait, c'est le parent pauvre de l'ophtalmologie dans le sens où, finalement, c'est une pathologie que l'on connaît très très peu. On connaît les conséquences, c'est-à-dire que l'on connaît la destruction du nerf optique, on connaît le problème mécanique, c'est-à-dire de chercher à baisser la pression intraoculaire, et on connaît très très peu de choses et très peu de traitements. Pourtant, il y a de nombreuses recherches dans le monde, mais pour l'instant, nous n'aboutissons à rien.
Merci beaucoup Gérald pour votre témoignage ce matin. Rappelez le nom de votre association.
Alors, si vous voulez de plus amples renseignements, vous pouvez nous rejoindre au www.associationfranceglaucome.fr, et vous pouvez également participer à la semaine mondiale du glaucome du 11 au 15 mars 2019, où il y aura des dépistages dépistage gratuits du glaucome. Il s'agit d'un petit jet d'air qu'on vous envoie dans l'œil, et à l'hôpital Saint-Joseph à Paris notamment, il y aura une consultation gratuite.
Et nous mettrons, Gérald, voilà, toutes les informations sur le site, à la page Grand Bien Vous Fasse. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Il est temps de retrouver les choses vues du docteur Aurélien Schneider.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand Bien Vous Fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Aurélien Schneider, Elisabeth Quin évoque dans son ouvrage ses angoisses de perdre la vue, une angoisse assez partagée. Je l'ai constaté en préparant cette émission.
Oui, la peur est une émotion connue de tous. Elle va du bon stress, utile pour agir efficacement, à la panique qui paralyse. Elle surgit quand nous nous croyons menacés, à tort ou à raison. Elle nous permet de réagir pour nous protéger. La suractivation du circuit de l'angoisse va, entre autres, diminuer l'activité du système immunitaire, nous rendre plus vulnérables aux infections et exacerber l'expression de certaines maladies, comme les pathologies auto-immunes ou neurodégénératives. Notre tension artérielle peut augmenter et ainsi nous affaiblir sur le plan cardiovasculaire. Comment faire pour ne pas être pénalisé par notre peur? Pour cela, essayons de pratiquer le tri sélectif. Car parmi les situations qui nous inquiètent et déclenchent chez nous la cascade du stress, certaines sont bien réelles, comme lorsque l'on subit une épreuve. Mais d'autres sont des anticipations toxiques. Quand nous craignons qu'un événement négatif survienne dans le futur, nous gambergeons sur des situations hypothétiques. Et en général, on rumine des pensées qui commencent par « et si jamais, si ça se trouve, peut-être que ». Trier nos peurs a un gros avantage. Cela nous permet de faire la différence entre le souci utile et le souci pathologique. Par exemple, si je suis malade, je dois mobiliser toutes mes ressources au profit de ce qui me fera du bien. Je vais alors prendre des rendez-vous médicaux, suivre un traitement, éventuellement organiser différemment ma vie pour toujours bien en profiter. Autant d'actions à mener qui vont m'être indispensables dans le présent et aussi en prévention. Oui, je dois anticiper. Mon anxiété et ma peur m'aident à me prendre en charge. Sans aucun doute, je me remercierai plus tard de ma clairvoyance. En revanche, une fois que toutes les mesures utiles sont prises, stresser sur l'avenir, sur des risques que, ne sert à rien. Par exemple, s'inquiéter des effets nocifs de médicaments que nous risquons de prendre. ruminer sur l'évolution future et incertaine de la maladie, sont autant de questions auxquelles nous n'avons aucune réponse, et ce souci-là est inutile. Et puis, échafauder en se mettant au lit, des dizaines de perspectives toutes plus effrayantes les unes que les autres, va perturber notre sommeil et nos capacités de récupération. Gardons nos forces au lieu de les disperser, nous en aurons besoin. Lorsque l'on a identifié le souci inutile, comment faire pour réussir à s'apaiser ? Eh bien, il va falloir courageusement travailler sur trois petits mots qui, mis bout à bout, sont pour un anxieux la pire des bombes, limite une grossièreté, quelque chose d'inconcevable, aussi inacceptable que le fait de perdre le contrôle. Et ces trois mots sont « on verra bien ». Alors on les inscrit sur des post-it, on les place partout dans la maison, jusque dans les toilettes, sur sa table de nuit, dans son portefeuille, afin de s'en imprégner, de les lire, de les relire, jusqu'à ce qu'un jour, devant une situation dans laquelle se faire du souci n'a aucun intérêt, on puisse avoir enfin le réflexe de se dire et d'y croire que l'on verra bien. Parvenir enfin à tolérer l'incertitude, économiser son énergie pour la mettre au service du vrai combat, vivre, et de la façon la plus lumineuse possible. La solution la plus économique pour le corps et l'esprit quand on est soumis aux impitoyables lois de l'imprévu, donc de la vie, c'est accepter que l'on ne peut pas tout sécuriser. Cela ne signifie ni baisser les bras, ni devenir un légume. C'est se protéger d'une angoisse chronique qui, elle, peut nous rendre vraiment malades. Enfin, prenons la peine de regarder plus tard ce qui s'est réellement passé. Le problème redouté est-il survenu ? Avais-je raison de m'inquiéter ? Tiens, finalement, rien de ce que j'avais craint ne s'est produit. Et si un imprévu est survenu, quelles en ont été les conséquences ? Est-ce que j'en souffre encore aujourd'hui ? C'est ce que nous appelons en thérapie les épreuves de réalité. Et très souvent, on constate qu'on a eu beaucoup plus de bénéfices à lâcher prise qu'à s'inquiéter. Et vous, cher Ali, si souriant et détendu, il vous arrive de vous faire du souci de temps en temps ?
Je vous dirai ça hors antenne, docteur Elisabeth Quin, ce glaucome vous angoisse, surtout à certains moments de la journée. Le matin au réveil, vous guettez le ray de lumière entre les lattes disjointes du volet de votre chambre.
Oui, il y a des rituels. Il y a des rituels pour se réassurer, et pour, en ce qui me concerne. Un peu moins en ce moment, un peu moins depuis quelques temps. Quand ça s'est vraiment aggravé, bien sûr, je me réveillais le matin et je me cramponnais littéralement, visuellement, à cette lumière-là, ce ray lumineux-là, qui me signifiait, tu vois encore ma fille, comme hier, enfin à peu près, quoi. Mais c'est très intéressant, la notion de lâcher prise. Et la notion de lâcher prise par rapport à une maladie, c'est aussi, enfin, ça induit aussi de tenter et de tout faire pour ne plus se poser une question qui est une question inutile. Pourquoi ? Pourquoi suis-je tombé malade ? Pourquoi ai-je développé cette maladie ? On passe des heures et des jours et des nuits inutiles à se corroder, à s'abîmer en se demandant pourquoi est-ce que c'est tombé sur moi. Oui. Ça ne sert à rien. Il faut effectivement s'alléger et lâcher prise et se contenter d'être dans une approche finalement très presque zen. Enfin, c'est ici, maintenant et demain.
Et vous citez d'ailleurs l'écrivain Christopher Hitchens ou le philosophe ruénogien pour qui la maladie n'apprend rien, elle ne fortifie pas, elle ne grandit personne. C'est ce que raconte ruénogien dans son dernier livre, et Christopher Hitchens aussi.
Oui, dans son livre, ils étaient rentrés dans un combat contre le dolorisme, mais c'était un combat politique aussi. Mais la maladie est à la fois un enseignement, mais un enseignement très limité. Ce qui compte, c'est véritablement de lâcher prise.
Ce qui compte, c'est votre petite question du matin, c'est est-ce que je vois ce ray de lumière ? Ok, ouf. Pour aujourd'hui, je le vois. Et c'est ça de gagner.
Alors abordons cette journée, le cœur ardent, vous voyez, une forme de joie autant que faire se peut.
Les choses vues d'Aurélia Schneider, à voir en vidéo sur l'appli France Inter ou à réécouter en podcast. Dans quelques instants, continue à s'intéresser au glaucome et à l'angoisse de perdre la vue. 01 45 24 7000. Super chérie, 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 super chérie.
toujours elle-même. C'est bien pour ça que je l'aime.
Interprété Super Chérie, France Inter diffuse ce soir le concert de M à 20h en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et c'est présenté par Rebecca Manzoni.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h49 et ce matin nous recevons la journaliste Elisabeth Quin qui souffre d'un glaucome ainsi que l'ophtalmologiste Stéphane Delage. Écoutons le chanteur et pianiste Ray Charles atteint d'un glaucome et qui a perdu la vue à l'âge de 7 ans. Sa mère l'a préparé très jeune à tous les gestes nécessaires à un non-voyant.
Ma mère, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle était si intelligente, si maligne. Une si grande perception, mais vous avez tout à fait raison. Ma mère, elle m'a appris tout. Elle m'a préparé pour cette vie où je deviendrai aveugle. Elle a mis l'accent sur le fait que, écoute, il faut apprendre comment survivre tout seul. Et elle m'a toujours dit qu'il y a toujours deux façons de faire tout. Il faut trouver simplement la bonne façon pour toi.
One of these days and it won't be long.
Ray Charles, dans l'émission Tout le monde en parle sur France 2 en 2001. Alors vous, Elisabeth Quin, ouais. Vous faites une chose assez étonnante.
Ouais.
Vous vous entraînez à devenir aveugle.
Enfin, je m'entraîne à amenuiser mon champ visuel. C'est-à-dire, encore hier, je l'ai fait par hasard. Je marchais en fermant un œil pour voir ce qui se passe, comment ça fait, comme disait Ray Charles. Oui, ça m'arrive souvent. Je pense que ça participe à la fois de la préparation et de la conjuration. Très honnêtement. Et puis, ça participe aussi de ce qu'on appelle l'identification, ou le fait de se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment fonctionnent les gens qui sont malvoyants et quel type de héros du quotidien ce sont que les gens qui se déplacent en ville quand ils voient pas bien, quand ils voient pas clair du tout et qu'ils le font quand même avec une forme de tenue, d'autonomie absolument proprement admirable.
Beaucoup d'empathie pour les non-voyants, à la fois visibles et invisible dans l'espace public.
Bah, écoutez, oui, visible et invisible. Bien sûr visible, parce qu'on s'écarte quand on veut laisser passer quelqu'un qui avance avec une canne ou dont on voit bien qu'il ne voit pas clair pour l'aider à se frayer un chemin. Mais invisible dans les médias, assez peu visible. Une vie rendue difficile, oui. La vie des handicapés en général n'est pas aidée dans l'espace public et par les pouvoirs publics. Et c'est dommage et c'est regrettable.
Vous vous demandez dans votre livre « La nuit se lève », ce qui est pire, être aveugle de naissance ou le devenir?
Je n'ai aucune réponse. Je me posais la question en ayant rencontré quelqu'un que vous connaissez, une psychologue, le docteur Mirabel Sarron, absolument époustouflante bonne femme, et quand je dis bonne femme, c'est avec un respect et une admiration, qui a été victime d'un accident de voiture, qui a perdu la vue à l'âge de 25 ans à peu près, je crois. Et alors elle, par contre, une autonomie, un abattage, un allant, un optimisme, et elle est au service des autres, qui plus est.
Aurélia Schneider.
Je suis remplie d'admiration pour elle. Et alors, c'est une grande amie. Alors, parfois, nous allons faire des courses toutes les deux. Et alors, une fois, je m'arrêtais devant un petit gilet. Et elle m'a dit, tu sais, ça devrait bien aller avec le foulard que tu as acheté la dernière fois. Et là, je suis tombée de ma chaise parce qu'effectivement, le petit gilet allait très bien avec le foulard.
Docteur Stéphane Delage, vous vouliez intervenir. Vous êtes en duplex de Lyon. Vous êtes ophtalmologiste, je le rappelle.
Oui, merci. Donc, je vais parler sous le contrôle d'Aurélia Schneider. Il y a effectivement quatre phases à l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave. Il y a d'abord une phase de déni, ensuite de révolte et d'injustice, dont a parlé Elisabeth tout à l'heure, puis une phase de dépression et après une phase de résilience. Et je pense que c'est cette phase de résilience qu'il faut atteindre, et ce qui est une forme d'acceptation. Et là, il faut prendre modèle sur les enfants. Les enfants leucémiques notamment, ou qui ont des maladies graves, qui sont exceptionnels de résilience, dont a parlé Boris Cyrulnik.
Elisabeth Quint, j'aimerais revenir quand même à votre quotidien. Vous parliez de résilience, docteur Delage. Vous avez appris à prendre votre temps et à devoir tout prendre de vitesse dans votre quotidien.
Non, j'ai appris à faire le tri. Vous parliez de tri sélectif tout à l'heure. On finit par hiérarchiser, par éliminer, par alléger, par ne plus se perdre dans des choses inutiles, par tout simplement concentrer au sens de, comme la concentration d'un regard, vous savez, vous finissez par vous concentrer ce qui vous semble être l'essentiel pour vous et pour ceux que vous aimez, pour ceux qui vous entourent et pour votre activité, enfin, au sens large. Mais il me semble que quand on arrive à ce stade dont vient de parler le docteur, résilience, acceptation, allègement, lâcher prise plutôt aussi, eh bien, quelque chose devient plus aigu, se fixe sur ce qui compte, sur ce qui est essentiel et se concentre sur cet essentiel dans votre existence. C'est peut-être un effet de l'âge. Je suis pas loin du gâtisme aussi, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui se met en place de cet ordre-là.
Vous écrivez, voir de moins en moins bien, apprendre à revenir à l'essentiel, l'amour.
Aussi, évidemment, si on a la chance de l'avoir dans sa vie, bien sûr.
Bonjour, Cathy, vous appelez de la Drôme, bienvenue.
Oui, bonjour. Non, c'est pas la Drôme, c'est le Lot.
Ah, sur mon écran, il y a marqué Drôme. Alors, mais c'est très bien le Lot aussi, vous savez.
C'est le beau département.
Exactement.
Moi, je suis aussi atteinte d'un double glaucome, qui est héréditaire, puisque ma maman en était atteinte également. Et je voulais juste savoir si des éléments extérieurs, comme la réverbération du soleil, par exemple, ou des ampoules trop fortes dans une maison, ou le fait de travailler sur un écran, pouvaient aggraver, entre guillemets, la maladie.
Docteur Stéphane Delage.
Alors aggraver, non, ça va entraîner une gêne, et un éblouissement et une gêne, mais ça ne va pas aggraver la maladie. Les écrans sont nocifs chez les enfants en vision rapprochée parce que c'est producteur de myopie forte, et on a des épidémies de myopie dans les pays asiatiques dues au fait de vision rapprochée. Donc sortez vos enfants, faites-les regarder au loin. Les lumières bleues sont probablement toxiques pour la macula, donc achetez des ampoules LED à blanc chaud et non pas à blanc froid. Par contre, ça ne va pas être au niveau du glaucome un facteur d'aggravation.
À quel moment passe-t-on au laser puis à la chirurgie, docteur Delage ?
Alors effectivement, après le traitement de collyre, on passe au laser. Donc si l'angle est ouvert, on fait un laser qui se nomme SLT, qui permet d'agrandir les mailles de ce fameux trabéculum afin de faciliter l'écoulement de cette humeur aqueuse. Donc cela se fait lorsque le collyre ne contrôle pas suffisamment la détérioration du champ visuel, ou quand il y a une mauvaise observance au collyre, ou quand il y a des effets secondaires des collyres trop importants.
Merci, docteur. Oui, pardon, allez-y, continuez.
Et puis la dernière étape, c'est la chirurgie.
Vous en êtes où, Elisabeth Quint?
J'en suis au collir avec toutes sortes de molécules, enfin je crois 3 molécules. On m'a fait une petite intervention donc au laser l'année dernière, une iridectomie, le docteur sait de quoi il retourne, et je suis dans un moment de réflexion par rapport à l'opération qui devrait intervenir, je suppose dans quelques mois, j'imagine.
Merci beaucoup hein, Cathy de nous avoir appelé. Pour terminer, Elisabeth Quint, j'aimerais lire ce poème anonyme exhumé par l'écrivain américain Jim Harrison sur la tombe d'un cimetière anglais du Cumberland et que vous citez dans votre ouvrage. Ce que le monde a de prodigieux, la beauté et la puissance, la forme des éléments, leurs teintes, leurs ombres et leurs reflets, je les ai contemplés, faisant de même, car la vie ne dure pas.
Qu'est-ce que vous voulez rajouter derrière ça? CQFD, ce qu'il fallait démontrer, sans écran bien sûr, car l'écran fait écran à cette beauté du monde.
Et pourquoi vous conseillez la lecture des mémoires de Jacques Lucéran, jeune résistant aveugle, déporté au camp de Buchenwald?
Je le cite parce que il est mort dans les années 70, il est né dans les années 20, il est devenu aveugle à 7 ans, il est devenu résistant à 19 ans, il engageait les membres de son jeune réseau de résistance à Louis-le-Grand, jeune étudiant encore à l'oreille, à Louis. Et je le cite parce que il était quelqu'un qui savait ce que voulait dire compenser. Il considérait que perdre la vue était la plus belle chose qui lui soit arrivée et il voyait avec tout son corps. Il le disait, il le vivait, ça a était un grand amoureux, un grand littéraire, ça a été quelqu'un qui a eu une vie incroyable et il voyait littéralement avec tout son corps.
Et on peut lire ses mémoires ainsi que la biographie de Jacques Lucéran par Jérôme Garcin, ça s'appelle Le Voyant. Marie-Laure Sunshine, très rapidement.
Je me demandais juste, La nuit se lève, pourquoi ce titre et comment rêvez-vous? Est-ce que votre vision est intacte dans vos rêves?
Mais ma vision est parfaitement intacte. Mais vous savez, la vision du docteur Mirabel Sarron, elle rêve en rouge et en couleur, qui est aveugle, cette femme aveugle dont on vient de parler. La nuit se lève, parce que la nuit se lève, il y a une lumière après. Quelle qu'elle soit.
Merci beaucoup Elisabeth Quint. La nuit se lève, je vous recommande très vivement. C'est publié chez Grasset. Merci d'être venue Elisabeth. Demain on se demande pourquoi pleurer fait du bien, pour soulager une tension, exprimer la joie et la tristesse. Également le plaisir de pleurer devant un beau film ou en écoutant de la musique. Dites-nous demain pourquoi pleurer vous fait du bien au 01 45 24 7000. Sans oublier la page Facebook de Grand Main vous fasse ou l'appli France Inter. Et je remercie évidemment le docteur Stéphane Delage en duplex de Lyon. Merci au bureau de France Inter à Lyon.